L'invité de la rédaction. Valérie Vial.
Mon invité de la rédaction aujourd'hui est Gila Clara Kessous, actrice, réalisatrice, artiste de l'UNESCO pour la paix. C'était en 2012, diplômée d'un double doctorat en lettres sous le mentorat d'Elie Wiesel, ce qui nous amène aujourd'hui son intervention sur nos ondes. Ce sont les accords Sarah et Adjar. Alors bonjour, bonjour Gila Clara Kessous.
Bonjour, merci de me recevoir.
Mais je vous en prie, vous étiez ce 1er janvier au centre communautaire dans le cadre d'une conférence. Sarah et Adjar, les premières femmes d'Abraham, c'est en lien avec ces accords d'Abraham. Pourquoi vous avez nommé ces accords dont on va développer aujourd'hui la thématique? Pourquoi Sarah et Adjar?
Ben en fait, c'est en lien bien sûr avec les accords d'Abraham, mais c'est vrai que les accords d'Abraham avaient été signés essentiellement par des hommes, et c'est vrai que l'idée de pouvoir imaginer des accords de Sarah et Adjar, c'était pour essayer de mettre des femmes dans le cœur du processus diplomatique, et donc c'est pour ça que j'ai voulu développer ces accords qui ont été signés donc fin avril dernier.
Alors un accord signé, vous le disiez le 24 avril dernier par Israël, le Bahreïn, le Maroc et les Émirats Arabes Unis. Un accord qui veut mettre les femmes au premier plan en matière de diplomatie. C'est cela ?
Exactement, je n'aurais pas pu mieux le dire. L'idée, c'est pas seulement, bien entendu, de pouvoir faire un accord qui touche uniquement aux droits des femmes, même si la diplomatie féministe porte sur les thématiques suivantes, c'est-à-dire aider des femmes à pouvoir... jouer leur jeu à la table de négociation, leur proposer de pouvoir beaucoup plus être visible au niveau diplomatique et puis essayer aussi de pouvoir faire reculer les violences faites aux femmes. C'est aussi une possibilité pour les femmes de réfléchir d'autres thématiques comme comment faire reculer la pauvreté, comment essayer de réfléchir sur ce qui peut se passer aussi au Moyen-Orient. Donc essayer de pouvoir permettre aux femmes aujourd'hui de vraiment avoir un rayonnement diplomatique qu'elles n'ont pas.
Alors justement, au Moyen-Orient, les cadres du féminisme ne sont pas les mêmes qu'avec une culture occidentale, comme cela pourrait se dessiner effectivement en Israël. Comment est-ce que vous faites le lien entre les différents pays ?
Alors en fait, moi j'ai été toquée à la porte des différents gouvernements et puis le fait aussi d'avoir pu travailler en tant que coach, en tant que consultante pour différents gouvernements m'a aidé à pouvoir avoir des contacts assez intéressants. Aujourd'hui, que ce soit les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn ou encore le Maroc, la question du féminisme est importante. Vous avez raison, hein, le statut de la femme n'est pas le même en Israël où on a un rapport occidental à la femme qui ne peut pas se comparer bien sûr au niveau des droits ou des libertés dans des pays comme les Émirats Arabes Unis. Mais aujourd'hui, les pays ne peuvent plus faire l'économie de se passer, on va dire, de la question du rôle de la femme, de la place de la femme, notamment pour pouvoir entrer en lien avec là où on en est du féminisme dans le monde. Donc c'est pour ça que le statut de la femme, même s'il n'est pas le même entre Israël et d'autres pays, était intéressant à pouvoir relier, surtout au niveau diplomatique. Sachant qu'aujourd'hui, dans les gouvernements, on va dire que certains gouvernements, comme les Émirats Arabes Unis, ont énormément de femmes au gouvernement, même plus aujourd'hui qu'en Israël.
Il y a un grand pas en avant qui a été fait et ça va dans ce sens-là aujourd'hui de mettre en avant, on va dire, ce nouveau cadre autour du féminisme au Moyen-Orient. Comment a été accueilli justement cet accord dans les différents gouvernements ?
Alors, cet accord, non seulement il a été très bien accueilli dans les gouvernements, mais il a été même presque plus accueilli dans les pays arabes qu'en Israël, puisqu'en Israël, lorsque j'ai abordé le gouvernement, on était en avril dernier, les gens me disaient que les pays arabes ne suivraient pas, ce qui n'était pas du tout le cas. Donc en fait, j'ai eu les représentantes des différents gouvernements, Maroc, Bahreïn, Émirats Arabes Unis, avant d'avoir la représentante du gouvernement israélien. Les gouvernements ont vraiment joué le jeu, c'est-à-dire qu'ils ont accepté de pouvoir permettre d'avoir des vidéos de ces différentes femmes, d'avoir la présence de ces différentes femmes aussi à Tel Aviv lors de la signature de ces accords qui a été faite par les représentants des différents pays qui étaient présents. Bien entendu, avec ce qui se passe aujourd'hui entre Israël et puis les conflits israélo-palestiniens, beaucoup de choses ont été remises en cause, même si j'ai pu recevoir des soutiens de la part de ces différentes femmes qui ont signé les accords.
Alors justement, depuis le 24 avril dernier, concrètement, sur le terrain, comment est-ce que ça se matérialise ?
Alors, ben, concrètement, sur le terrain, on est déjà dans des phases de réflexion à savoir qu'est-ce qu'on peut faire de notre côté. Oui. C'est vrai qu'au niveau féminisme, il y a eu des choses qui ont été faites en amont. Je pense que vous avez déjà entendu parler de groupes comme Women Wage Peace, oui. ou Women of the Sun, n'est-ce pas, qui est toujours un groupe de femmes israéliennes et palestiniennes qui, ensemble, essayaient de se battre pour pouvoir essayer de faire avancer des accords de paix. D'ailleurs, juste avant le 7 octobre, nous étions à la marche qui a eu lieu en Israël pour essayer de faire ces demandes. Aujourd'hui, une des fondatrices de ce groupe a été massacrée lors des actes du Hamas du 7 octobre dernier.
Oui.
Et c'est vrai que ça a été un moment extrêmement difficile. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau de l'action en tant que telle, on est plus dans la réflexion que dans l'action, parce que, bien entendu, on a un immobilisme face au jeu du Hamas, qui est, en termes de tactique, extrêmement fin et stratégique, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui vient poser des questions vis-à-vis du positionnement que les pays arabes peuvent avoir vis-à-vis d'Israël. Donc c'est pour ça qu'on pense même qu'aujourd'hui les accords d'Abraham peuvent être remis en cause. Moi, je sais que j'avais eu de la part de la Ligue arabe un intérêt pour pouvoir faire en sorte que les accords de Sharm el-Sheikh puissent être même étendu à d'autres pays, et j'avais été approchée aussi par des pays comme l'Arabie Saoudite. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui prenait son envol, mais c'est vrai que les cartes ont été rebattues depuis l'attaque du 7 octobre.
Justement, cette attaque du 7 octobre, la montée de l'antisémitisme, aujourd'hui, en France, en Europe, dans tout le Moyen-Orient, c'est assez évident. Aujourd'hui, vous, les liens que vous avez, vous, créés, ils arrivent à vivre? Vous avez eu, vous, des retours? Vous avez eu du soutien des dirigeants de ces pays-là?
Alors, des dirigeants en tant qu'hommes, c'est vrai que c'est très intéressant de voir que les dirigeantes, enfin les femmes au gouvernement, oui. Qui ont signé, elles restent très solidaires. Les Émirats Arabes Unis ont été les premiers à pouvoir être derrière Israël lorsque le 7 octobre s'est déclaré, c'est-à-dire à pouvoir condamner les actes du Hamas et à pouvoir faire des déclarations dans ce sens. Bien entendu, les actes de solidarité, il y en a, surtout dans les différentes entités que les femmes représentent. Si vous prenez par exemple la représentante du Maroc, c'est une représentante juridique, c'est quelqu'un qui est avocate, donc ça sera une sphère à Rabat qui va être spécifique. On sait qu'il y a eu aussi beaucoup de manifestations pro-palestiniennes au Maroc par exemple. Oui. Donc si vous voulez, ça veut aussi dire des choses vis-à-vis de comment les femmes se positionnent. On essaye de pouvoir faire des choses. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même une certaine reconnaissance. On a fait la une de Khalid Time, on a qui est aux Émirats Arabes Unis. On a eu aussi des articles qui sont parus dans la presse, essentiellement d'ailleurs la presse arabe. Peu de choses sont sorties au niveau de la presse israélienne, parce que bon, peut-être que la question féministe aussi n'est plus trop d'actualité, en tout cas pas trop le sujet, surtout pas après le 7 octobre. Voilà. C'est vrai que même avant le 7 octobre, moi, la jeune femme avec qui je travaille sur ces accords, elle acceptait aussi de dire que le gouvernement jusqu'à présent n'était pas des plus féministes du tout. Donc ça, c'est vraiment aussi une place de la femme au niveau de son rôle dans la diplomatie israélienne. C'est quelque chose qui est aussi à questionner. Donc aujourd'hui, pour essayer de pouvoir répondre à votre question, la solidarité, elle existe, mais elle existe par rapport au champ d'action, qui reste un champ d'action limité, oui. au niveau du féminin, de ces femmes qui ont pu signer, et des rôles qui leur sont assignés aussi.
Donc, on le disait, c'est la première marche, c'est cet accord signé le 24 avril dernier, Sharm el-Sheikh. Comment aujourd'hui cet accord va évoluer? Alors, on l'entend, l'adhésion de plus de pays, mais autrement, quels peuvent être encore vos champs d'action que vous pouvez développer?
Alors, ce que j'essaye de faire, c'est d'essayer de prendre un peu la question à l'envers, c'est-à-dire que comme je sens qu'il y a un immobilisme qui est assez grand vis-à-vis du Moyen-Orient, je vais essayer de pouvoir plutôt faire travailler quelque chose de diplomatique au niveau africain. Donc, je suis en train de développer une alliance Des accords de femmes africaines. J'essaie d'avoir les 54 pays. Pour l'instant, il y en a une quinzaine qui a signé. Et comme Israël fait aussi partie de l'Afrique, décaler, si vous voulez, cette réflexion pour essayer de faire en sorte d'avoir aussi toute une stratégie de femmes alliées pour essayer de repenser un peu la diplomatie, je pense que c'est du côté africain qu'il faut le trouver, puisque le côté du Moyen-Orient est un peu paralysé avec ce qui se passe en ce moment.
C'est entendu. Merci infiniment, Gila Clara Kessous. Donc, ça continue. Vous êtes toujours aussi motivé pour porter cet accord aujourd'hui, malgré les événements. Enfin, je veux dire, malgré 7 octobre.
Je pense que le fait qu'il y ait ces événements, qui sont absolument odieux, nous pousse aujourd'hui à devoir faire quelque chose. Et je ne dis pas que c'est des choses qui vont être des réussites. Je ne dis pas que c'est des choses qui vont forcément faire changer la donne. Mais encore une fois, il est interdit de ne rien faire. Il faut vraiment chacun à son niveau faire sa pierre à l'édifice. Moi, je sais que Elie Wiesel, c'est ce qu'il m'a enseigné, c'est vraiment cette capacité à pouvoir non seulement porter sa voix en tant que juif, porter sa voix en tant que survivant, essayer d'être en écho aussi avec les autres survivants, et puis faire en sorte de faire changer la donne au niveau politique. Elie Wiesel, c'était quelqu'un très proche des politiques, qui était aussi conseiller, consultant. Et donc, il m'a donné cette volonté-là aussi de toucher à la diplomatie à mon faible, tout petit niveau.
Pas si faible, grand pas. Vous avez fait un grand pas pour la cause des femmes au Moyen-Orient avec cet accord. Et puis, c'est pas fini, évidemment.
Non, c'est pas fini. En tout cas, merci de m'avoir permis de pouvoir m'exprimer là-dessus.
Merci à vous, Gila Clara Kessous.
Une belle année 2024 pour tout le monde.
Merci, vous aussi. Voilà, c'est dans la boîte. Merci beaucoup.
Merci à vous. J'espère que c'était pas trop long.
Non, c'est parfait. Non, j'avais mangé mon petit timer. On a fait 11 minutes. On était sur 10, mais c'est très bien.
L'invité de la rédaction.